Radio Octopus. Écho des développements. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro des Codes du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et de développement durable qui fait le bilan de la gestion des aires protégées depuis l'accession de la RDC à l'indépendance jusqu'à nos jours. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou en collaboration avec Paul Richard Malengela de la rédaction de Radio Kapimbandaka. Sylvain Baroguere s'occupe de la prise des sons sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce numéro spécial consacré au bilan de la gestion des aires protégées de la RDC depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours.
Radio Capi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, droit et citoyenneté mardi, parité et famille mercredi, écho du développement jeudi, 100% jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci d'écouter Radio Capi, la fréquence de la paix. La RDC possède 9 parcs nationaux et une soixantaine de domaines de la chasse et des réserves gérés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. Ces sites permettent de conserver tant les rivières, les fleuves Congo, les forêts, les animaux, les lacs, les volcans, les montagnes, les plaines et les différentes espèces animales et végétales. Cependant, ces sites ne sont pas à l'abri de l'insécurité et de l'exploitation illicite de ces ressources. Le budget de fonctionnement alloué à ces sites est largement insignifiant comparativement aux besoins qui se posent sur terrain. Quel bilan peut-on dresser sur la gestion des aires protégées de la RDC depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours? Comment améliorer la gestion des aires protégées de la RDC? Et quel est l'apport des partenaires, notamment de la délégation de l'Union européenne, dans la conservation de la biodiversité dans les aires protégées de la RDC? Vous aurez de plus amples informations sur ces quelques questions au cours de ces numéros consacrés au bilan de la gestion des aires protégées de la RDC depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous vous prions de suivre les réactions de ces quelques habitants de la ville d'Mbandaka qui déplorent l'état dans lequel se trouvent les jardins botaniques d'Eyala.
Monsieur le journaliste, j'ai beaucoup de souvenirs des années passées. D'abord, le jardin botanique d'Eyala, c'est notre référence à la ville d'Mbandaka. Dans les années passées, il y avait vraiment l'entretien normal. En dehors de cela, il y a un crocodile qui est là-bas, qui a plus ou moins maintenant 75 ans. On l'entretenait convenablement et on lui donnait la nourriture presque chaque jour. Mais subitement, pour l'instant, il y a les agents de l'ICCN qui sont là-bas, mais ils ne s'occupent pas bien d'entretenir le jardin. Beaucoup d'herbes, les routes sont devenues impraticables, mais je vis là-bas, on a construit des maisons par la Banque mondiale. Malheureusement, les maisons sont inhabitées, donc les gens ne se retrouvent plus là-bas. Vraiment, notre jardin là d'Eyala, je regrette beaucoup parce qu'il faut l'entretien presque chaque jour. Non, je demande toujours aux partenaires, je demande à la Banque mondiale, je demande à l'ICCN, je demande aussi au gouvernement congolais de songer à notre jardin d'Eyala parce que ça, c'est notre patrimoine de la province de l'Équateur. Tous les gens qui viennent ici en Mbandaka songent toujours d'aller visiter notre jardin botanique d'Eyala. C'est pour cela que je demande aux hommes de bonne foi de venir participer ou bien de venir aider l'ICCN pour entretenir ce jardin.
Notre village où je suis né, c'est Alifumba. Alors du côté père, c'est Boangi. C'est sur la route Bamaya. Alors, l'histoire du jardin botanique, si je peux parler un peu, c'est parce que j'ai eu un grand-père qui travaillait là-bas. Alors, comme vous le savez, c'était un domaine réservé pour le roi
à l'époque.
Même nous, on avait des difficultés pour aller là-bas, pour accéder là-bas. Mais sauf que le grand-père nous racontait que là-bas, c'est chez les Blancs. Quand vous allez là-bas, et même sur la route, il ne faut pas ramasser même des fruits qui tombent. Vous ne pouvez même pas couper le bois. Donc, il y avait des gardes du jardin, ils étaient là. Vous avez des allées. Et c'était vraiment la forêt. C'est encore une réserve. Vraiment, c'est naturel. Ah oui, naturel. Alors, c'est comme ça que le grand-père nous disait. Mais les Blancs pouvaient aller là-bas quand on programme pour les loisirs. Il accédait, quelques évolués aussi allaient là-bas, mais les gens étrangers à ce domaine-là, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas là-bas, et quand on fait la cueillette, les gens partaient là-bas. Et avant d'entrer, il y avait une taxe à payer, donc il y avait une condition avant d'accéder. Il faut avoir payé une taxe avant d'y entrer. Et quand vous entrez là-bas, vous êtes bien surveillé, vous faites ce que vous allez faire, comme je l'ai dit par exemple, acheter ou le loisir, après vous sortez. Et puis on ferme avec la grille. Donc c'est ça le souvenir que je connais. Jusqu'en 67, j'ai dû partir d'ici pour d'autres cieux où j'ai travaillé là-bas à la territoriale.
Alors maintenant que vous êtes revenu encore ici en Bandakan, oui. Est-ce que vous avez trouvé les choses sont les mêmes ou bien il y a eu changement positif ou négatif?
Non, mais jardin botanique, il n'est pas comme nous on apprenait, même à distance, quand le grand-père nous racontait et les gens qui partaient là-bas aussi. Il y a un grand changement, les maisons délabrées, il y avait des pépinières là-bas. Des arbres fruitiers, si vous voulez faire un berger, c'est là où on allait acheter. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement.
En tout cas, merci beaucoup. Il y a 10 ans passés, en 2008, j'ai fréquenté à la main. Pour l'instant, il y a vraiment un grand changement dans le mauvais sens. Le petit constat est d'abord qu'on entra seulement et il y avait deux routes parallèles, donc sens inverse, aller et retour. Mais actuellement, il n'y a qu'une seule. Dans quel état aussi? C'est vraiment une piste, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, donc il n'y a presque rien. Même les gens qui ont vécu, je sais qu'ils ont même les difficultés de rouler normalement dans cette allée-là. Maintenant, là, nous avons une espèce qui est là de crocodile. Mais même pour l'entretenir, le milieu où le crocodile est le, il y a même des herbes, beaucoup de choses. Je ne sais même pas s'il vit normalement, comme c'était en avant. Même s'il y a la pluie aujourd'hui, dans les jardins, on va se protéger où? Au moment des intempéries. Il n'y a presque rien. Les palottes, là, c'est vraiment délabré. Donc, à part ça, il y a le changement, mais dans le mauvais sens. Il n'y a pas la progression.
Mais il y a eu quand même quelques projets. On a même construit des nouveaux bâtiments là-bas. Mmh.
Mais les nouveaux bâtiments là qu'on a construits, est-ce que les gens utilisent ça? Je ne sais même pas. Moi, je vois seulement les bâtiments. Est-ce qu'il y a même les gens? Ils n'ont même pas l'esprit de marketing. Nous, pensons là, les maisons là sont comme ça, abandonnées. Est-ce que les gens les fréquentent? Les gens l'utilisent ça? Il fallait alors penser de faire d'autres choses que de construire des choses que les gens n'utilisent pas. Bientôt, peut-être, ça sera les vacances. On peut amener les enfants. Ils vendent des sucres là. Les enfants peuvent prendre des sucres. Mais si vous quittez ville de Mbandaka, le Congo, ça pourrait aller à Yala. Il faut peut-être amener des glacières. Il faut toujours l'amener. Et si vous n'avez pas les moyens de transport, comment vous allez amener les glacières là-bas? Alors, il y avait quand même l'opportunité de faire peut-être même des congélateurs en panneaux. Il y a aujourd'hui, par-ci, par-là, dans la ville, ici, il y a des panneaux. On peut même mettre des lampadaires, même 10 lampadaires dans Yala. Mais il n'y en a pas. Si vous êtes à Yala, avant 18h, il faut quitter.
Nous disons merci à ses auditeurs et à Paul Richard Malengela de la rédaction de Radio Kapi qui a recueilli ses réactions auprès de quelques habitants de la ville de Mbandaka. Nous sommes là, dans la province de l'Équateur. Précisons que le jardin botanique de Yala est le plus vieux ainsi que le plus grand jardin botanique d'Afrique. Il se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. C'est quoi une aire protégée? Une aire protégée, est, selon la définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la biodiversité. Et en RDC, des projets de création des aires protégées remontent à l'époque coloniale, indique Cosma Wilungula, directeur général de l'ICCN.
Vous savez, les aires protégées sont parties de très loin, cette historique-là. Ce n'est pas seulement en 60, ce n'est même pas en 1925 quand nous avons connu le tout premier parc qui était le parc national Albert. Mais les aires protégées ont commencé depuis la politique domaniale de Léopold II. Et là, vous êtes déjà dans les années 1885. Et dans cette période-là, lorsque le roi a voulu avoir des terres qui sont réservées au roi, qu'on appelait des terres domaniales, et qui sont pratiquement opposables aux terres indigènes, dont les citoyens, les indigènes de l'époque pouvaient se servir. Déjà, c'est à cette époque que le roi Léopold II a permis qu'il y ait des espaces de forêt qui étaient gardés, conservés, par exemple pour les caoutchoucs, parce qu'ils avaient des fonctions bien précises, par exemple pour l'exploitation de l'ivoire et d'autres types comme les lianes dont on se servait, les veillas et consorts. Voilà déjà ce qu'a été une particularité. Ils ne connaissaient pas encore le concept air protégé, ni le concept conservation, mais c'était déjà le début d'un mécanisme de pouvoir disposer des espaces de forêt appropriés pour une fonction précise. Et à l'époque, ça jouait ce rôle. Tous les botanistes belges de cette époque-là, des années-là, avaient déjà commencé à s'intéresser à ces espaces. Et dans ces cas-là, personne d'autre ne pouvait avoir accès à ces espaces-là, parce qu'ils avaient des fonctions précises. Quand vous arrivez en 1900, donc en 1900, c'était le début maintenant avec certains botanistes de particulariser ces espaces afin qu'ils soient assez déterminés. Et à ce moment-là, on a parlé du jardin botanique. Donc en 1900, on a créé le jardin botanique de Kisantu et on a créé en 1900, la même année, le jardin botanique d'Eyala à l'Équateur.
Dans un monde au climat en perpétuelle évolution, les aires protégées revêtent une importance particulière pour la conservation de la biodiversité et les moyens d'existence humains. Elles jouent de ce fait un rôle important en aidant les espèces animales et végétales, les populations et les pays à s'adapter aux effets du changement climatique. Au-delà de la fonction de la protection de la biodiversité, les aires protégées sont aussi des sites où l'on mène des recherches dans les domaines de l'écologie. Selon Cosma Wilungula, nous rappelons qu'il est le directeur général de l'ICCN.
Et la fonction, non seulement de la mission de protection, et elle a connu maintenant l'expérimentation de plusieurs plantes, et qui s'entoure également avec tout ce qui était des types de fleurs et consorts. Voilà ce qui a commencé à spécifier ces espaces-là. Mais également une gestion qui a commencé à être rigoureuse, pas d'accès aux personnes non attitrées, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les aires protégées qui ont pu suivre l'histoire ont permis qu'on arrive en 1925 où on a créé maintenant ce parc national Albert. En fait, c'était une curiosité. Le roi Albert, qui revenait de la visite où il a vu le Yellowstone aux États-Unis, et ça l'a beaucoup émerveillé. Il s'est dit comment ne pas faire quelque chose comme ça là où nous sommes. Mais en même temps, il venait de se découvrir une grande curiosité scientifique. C'était le grand singe. Donc, ce que nous appelons ces gorilles de montagne. Ça émerveillait des gens de comprendre qu'il y a une espèce animale beaucoup plus proche de l'homme et qui avait certaines caractéristiques. Donc, la région de massifs volcaniques et de Virunga était devenue l'attraction scientifique. Et ces massifs couvraient effectivement une partie du Rwanda, que nous appelons aujourd'hui Volcano, et une partie de l'Ouganda que nous appelons Mugainga. Donc c'est ce massif-là qui est devenu une attraction scientifique, et cela a permis en fait qu'on arrive à créer le parc national Albert en 1925, qui répondait à ces deux curiosités. Non seulement la curiosité scientifique, très poussée pour la connaissance de cette espèce animale qui était en vogue à cette époque, mais aussi les niveaux attractifs, récréatifs que le roi venait de vivre en Amérique après sa visite du premier parc au monde, qui est le parc de Yellowstone.
La RDC possède trois grands parcs considérés comme des aires protégées depuis l'époque coloniale, ajoute Cosma Wilungula. Nous rappelons qu'il est le directeur général de l'ICCN.
Trois grands parcs comme aires protégées. Donc en 1925, vous avez le parc national Albert. Mais en 1938, maintenant vous avez le parc national de Garamba, fusionné avec les trois domaines de chasse, donc il y a Zandé, Ngangalana, Bodio, et il y a, je crois, un autre, ça fait trois domaines de chasse qui entourent le parc de Garamba. Et en 1939, vous avez le parc national de Lupemba. Ce sont ces trois parcs qui accompagnaient. Mais la politique coloniale était très intéressante dans le fait qu'il y avait des réserves qui avaient été créées. Et certaines étaient pour des périodes beaucoup plus précises. Une réserve qui était créée pour 5 ans. Juste un site qu'on pouvait appeler une station d'observation qui était créée pour un certain nombre d'années. Vous regardez plus près d'ici, vous avez le réserve et domaine de chasse de Mbombolumene. Mais quand sa création, c'était en 1952, déjà dans cette période, ça existait, mais ça n'avait pas l'ampleur des aires protégées typiques telles qu'étaient Albert, Garamba et Upemba. Et il y en avait suffisamment plusieurs réserves qui étaient là. Et comme je le disais, certaines n'avaient qu'une mission tout à fait scientifique et qui était réservée à ça. Mais dans le village, les gens appelaient ça seulement de parc. Ça, on connaît les blancs. Oui, ça, c'est un parc de blancs. Mais les spécificités, il n'était pas tout à fait identifié selon tous les classements de l'UICN et autres. Mais c'est ça qui était grand, trois grands parcs et plusieurs réserves et domaines de chasse ainsi disséminés à travers tous les pays.
Radio Okapi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Vous êtes en train de suivre Code du Développement, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et de développement durable, qui fait le bilan de la gestion des aires protégées de la RDC depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Il faut souligner que les conflits armés qu'a connu la RDC depuis les années 90 ont eu un impact négatif sur les activités dans les aires protégées. 5 sites sont classés dans la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Les espèces animales et végétales ont payé une lourde tribu des suites de ces conflits. Il y a cependant des efforts qui sont menés sur terrain pour revaloriser ces sites, ajoute Jean-Marc Châtaignier. Nous rappelons qu'il est l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC.
Il y a eu une grosse cassure, dont vous êtes forcément conscient et malheureuse, hein, et qui a un impact historique sur la RDC. Il y a eu des guerres dans l'est du Congo à la fin des années 1990, et là il y a eu une fracture. Jusqu'aux années 80, il y a eu une assez bonne préservation du parc, et il y avait des troupeaux de, par exemple, de de buffles, des troupeaux immenses, des troupeaux d'éléphants, des hippopotames. Et je crois qu'on est, par exemple, sur le parc de Virunga, que j'ai eu la chance de visiter, j'ai pu voir les hippopotames, et il y en a eu jusqu'à 25 000 à 30 000 dans les années 1970-1980. Il y a eu la guerre de l'Est du Congo, qui s'est produite à la fin des années 90 et qui s'est poursuivie. Et puis, au début des années 2000, je crois que la population était descendue, avait été divisée par... descendue en dessous de 1000, voire 500. Et maintenant, depuis le début des années 2000, on est remonté à plus de 2500. Donc la population des hippopotames, mais c'est la même chose pour les éléphants, et c'est la même chose pour les autres grands animaux sauvages, qui sont un trésor unique.
C'est depuis 30 ans que la délégation de l'Union européenne en RDC appuie l'ICCN dans les différents projets, dans les aires protégées et à proximité de ces sites, afin de réduire la forte demande des ressources naturelles par les communautés locales vivant à proximité de ces aires protégées, selon Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC.
Alors, qu'est-ce qui a motivé l'Union européenne? C'est d'abord une demande de partenariat de nos partenaires congolais. Je crois que vous avez interviewé tout à l'heure le pasteur Cosma, vous avez rencontré les gens de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il y a eu une demande de partenariat, de coopération, pour préserver un espace naturel qui est absolument unique, absolument extraordinaire, qui est, même pour certaines aires, je pense à l'aire de Virunga, qui est une aire, un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, il y a eu une demande de nos partenaires pour qu'on travaille ensemble pour aider à protéger ces aires protégées, qui représentent environ 12,5%, 13% du territoire congolais. Et faire en sorte que ces territoires, ces aires protégées, puissent bénéficier véritablement aux populations. Et donc, construire ensemble un partenariat qui soit véritablement, même si le terme peut paraître un peu galvaudé, gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant entre les partenaires extérieurs qui aident à préserver un espace unique, gagnant au point de vue du gouvernement congolais qui valorise un patrimoine mondial unique au point de vue de l'humanité, un trésor, et gagnant pour la population congolaise qui puisse bénéficier des ressources.
Les activités sont en train d'être redynamisées dans les aires protégées de la RDC en mettant un accent particulier sur les modes de gestion de ces sites, ajoute Cosma Wilungula. Nous rappelons qu'il est le directeur général de l'ICCN.
Alors, le bilan, c'est que c'est aujourd'hui, nous avons essayé de redynamiser le parc. Nous avons pris un peu beaucoup plus d'ampleur. Mais la période Mobutu était une période où on avait consolidé les aires protégées qui existaient, parce que tout cela dépend, en fait, de l'amour naturel du leader dans le pays par rapport à l'environnement et à la conservation. Pendant le temps de 60 jusqu'à 65, c'était presque une période morte. Même les archives des aires protégées, vous le retrouvez peut-être au ministère de l'Agriculture. Parce qu'à l'époque, il y avait le moniteur agricole qui s'en était chargé à ce niveau-là. Et il a fallu attendre encore qu'on revienne en 75 avec la création du ministère de l'Environnement, qu'on puisse retrouver quelques archives. Voilà pourquoi nous avons même la difficulté de systématiser toutes les aires protégées, parce que les archives se sont retrouvées éparpillées. Mais notre bilan, aujourd'hui, nous pouvons lui dire que nous avons pu redynamiser les choses, mais nous avons plutôt été beaucoup plus innovants. L'innovation, c'est que nous avons été appelés à concevoir d'autres formes de gestion des aires protégées. Les gestions passées classiques, assez policières, coloniales, ne pouvaient plus répondre à la dynamique de notre population aujourd'hui. Vous savez que, qu'est-ce que notre population avait retenu? Les aires protégées est une affaire des blancs. Le parc appartient aux blancs. Le tourisme, c'est pour les étrangers et les blancs.
Pour améliorer les modes de gestion de ces sites, un partenariat est mis en place entre la délégation de l'Union européenne en RDC et le gouvernement congolais, car ce sont des sites faisant partie du patrimoine mondial. Il est impérieux de protéger ces sites naturels au profit de l'humanité, commente Jean-Marc Châtaignier. Nous rappelons qu'il est l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC.
Alors, qu'est-ce qui a motivé l'Union européenne? C'est d'abord une demande de partenariat de nos partenaires congolais. Je crois que vous avez interviewé tout à l'heure le pasteur Cosma, vous avez rencontré les gens de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. il y a eu une demande de partenariat, de coopération, pour préserver un espace naturel qui est absolument unique, absolument extraordinaire, qui est, même pour certaines aires, je pense à l'aire de Virunga, qui est une aire, un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, il y a eu une demande de nos partenaires pour qu'on travaille ensemble pour aider à protéger ces aires protégées, qui représentent environ 12,5%, 13% du territoire congolais. Et faire en sorte que ces territoires, ces aires protégées, puissent bénéficier véritablement aux populations. Et donc, construire ensemble un partenariat qui soit véritablement, même si le terme peut paraître un peu galvaudé, gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant entre les partenaires extérieurs qui aident à préserver un espace unique, gagnant au point de vue du gouvernement congolais qui valorise un patrimoine mondial unique au point de vue de l'humanité, un trésor, et gagnant pour la population congolaise qui puisse bénéficier des ressources.
C'est également important d'exploiter les ressources des aires, protéger la RDC de façon durable en assurant en même temps le développement des communautés qui dépendent des potentiels écologiques de ces sites. Conclut Jean-Marc Châtaignier, nous rappelons qu'il est l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC.
Le message que j'ai à vous adresser, c'est un message d'espoir dans l'exploitation de ces ressources et dans la gestion de ces ressources. Et le second message, c'est de vous dire, ne faites pas les mêmes bêtises que nous avons faites. Exploitez ces ressources de façon durable, en harmonie avec la nature, préservez-les, parce que plus le temps ira, plus elles vont prendre de valeur. Plus vos forêts vont prendre de valeur, plus votre faune va prendre de valeur. Et moins le pétrole qui se trouve peut-être au fond de votre sous-sol, moins lui il aura de valeur et moins vous aurez intérêt à l'exploiter. Le Congo a souscrit à des engagements internationaux, en particulier pour Virunga, patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Congo peut toujours dire « je renonce ». Mais à ce moment-là, imaginez à quoi vous renoncez. À quelque chose qui a peut-être beaucoup plus de valeur que ce qui est dans le sous-sol. Et il y a aussi une responsabilité de la communauté internationale, hein, dans l'aide internationale. Et c'est ce qui justifie l'aide internationale, la coopération de l'Union européenne. On me dit, alors parfois, l'Union européenne fait des dons, des subventions. Vous avez un agenda caché, vous avez toujours des idées d'exploitation de ressources. Non, ben, on veut vraiment... C'est un partenariat pour préserver ensemble une ressource commune. On co-travaille ensemble, on fait un partenariat commun pour nos enfants, et les enfants congolais, les enfants européens, pour tous. Donc oui, ça me... Enfin, si le Congo dit, dans sa souveraineté, et il a le droit, dit, ben, je renonce à vos parcs, je ferme les parcs, je ferme les aires protégées, il aurait le droit, il ne le fait pas, hein, mais il aurait le droit. Je pense qu'il ferait une erreur. Et d'autres pays l'ont fait. Et c'est justement le sens que je vous disais, ne faites pas les erreurs que nous avons pu faire ou que d'autres pays sont en train de faire.
C'est par ici que nous clôturons ce magazine consacré au bilan de la gestion des aires protégées, la RDC. Depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, que vous a présenté Tati Mapoukou en collaboration avec Paul Richard de la rédaction de Radio Kapimbandaka. Sylvain Baogwere était à la prise des sons sous la coordination et la supervision de Jean-Marc Matwaki. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro des Codes du développement le jeudi prochain. À bientôt.